Fils et du Saint-Esprit. Alors, le cœur, bien sûr, c'est l'Évangile aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler, bien qu'il soit d'une extrême difficulté, pour ne pas dire plus. Mais c'est vrai que le passage de saint Paul est très célèbre, bien qu'il soit très très mal traduit. Je le dis, Bernard, dans ce livre, il est très mal traduit. Parce que le mot, c'est orgueil, c'est pas se surestimer. Il y a beaucoup d'erreurs. Il dit, je connais un homme, il dit pas, je connais un chrétien. Mais c'est vrai que c'est une... Je rappelle quand même que Paul, qui est le plus grand de tous les théologiens, il était très attaqué. Il ne faut pas penser que parce qu'on est un homme de Dieu, ou parce qu'on se conduit bien, on va être très aimé. C'est même son erreur. Il a été terriblement attaqué, il a dû se défendre. D'ailleurs, il est en train de se défendre, parce qu'on l'a accusé. Il était accusé tout le temps, simple. Et il dit, ben, je suis peut-être un pauvre type, mais il dit, je connais quelqu'un qui... Il était transfiguré. C'est ça que ça veut dire. Le troisième siècle, c'est qu'il a vu la lumière incréée. Il dit, quand même, réfléchissez un peu. Voilà, c'est très, très, très intéressant pour nous. Et il dit, pour empêcher de m'enorgueillir, le Seigneur a planté dans ma chair une écharpe, un ange de Satan, pour empêcher de m'enorgueillir. Il dit, j'ai supplié Dieu de arrêter. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse de l'homme. C'est très important pour nous. Vous savez, il faut que nous en souvenions tous. Même si nous n'avons pas des expériences spirituelles aussi avec celle de saint Paul, on doit se souvenir de cela. Quand on fait des choses très bien, on a souvent un ange de l'orgueil qui rôde. Et si Dieu ne nous envoyait pas des épreuves, qu'est-ce qu'on deviendrait? On ne sait pas comment on se comporterait. L'Évangile. C'est un évangile impossible. C'est le passage le plus difficile de tout l'évangile et de toute l'Écriture sainte. On est au cœur du cœur de l'enseignement de l'Écriture. Redoutable. Et en plus, la péricope, mais ça arrive assez souvent dans le rite byzantin, dans le rite byzantin, on ne choisit pas dans les quatre évangiles, on lit à la suite. On lit d'abord Matthieu, puis ensuite on lit Luc. Donc, ça, simplement, ça tombe comme ça. Mais il vaudrait mieux le prendre chez saint Matthieu. C'est pour ça que j'ai pris une concordance, pour avoir les deux textes sous les yeux. Parce que, au fond, la clé de cet évangile se trouve chez saint Matthieu. Ça se situe pendant le grand discours inaugural du Seigneur. Donc il a attendu qu'il y ait déjà des gens qui l'écoutent. Vous avez vu, il ne parle pas dans le désert, le Seigneur. Jean-Baptiste parlait dans le désert. Parce que il voulait signifier, Dieu voulait signifier que c'est un monde déchu. Le monde sans lui est un désert. Le Christ parle quand il y a eu des gens autour de lui. Il a d'abord appelé les douze, et puis les foules le suivent. Et donc, c'est pas très très loin Capharnaüm. Son peuple, le monde des béatitudes. Et là, il va parler. Il fait un grand discours, qui est un discours programme. C'est son discours inaugural. Il dit, je dis bien, il dit, il est le Verbe du Père. Ce sont les pensées du Père qu'il révèle. Il dit les pensées de Dieu et il nous révèle la nouvelle loi, la loi de la sainteté. Et il faut bien comprendre que l'ancienne loi, saint Paul le dit abondamment, elle avait pour but de rendre les gens moins mauvais. Mais la nouvelle loi n'a pas du tout cet objectif. La nouvelle loi a pour but de rendre les gens saints, parfaits. Là, dans cet évangile, le Seigneur dit, mais chez saint Matthieu, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est pas du tout pareil. Et ça nous permet de comprendre pourquoi c'est si difficile. Ça n'a pas du tout moral. Il n'a pas du tout envie de faire de nous des gens bien, entre guillemets, mais des dieux. Ce n'est pas la même chose. Et donc, le terme de comparaison, c'est Dieu là-dedans. C'est pas ce qui se passe dans le monde. Et vous avez remarqué, plutôt ça ne se voit pas tellement ici, parce que ça se voit plutôt chez saint Matthieu, que le Seigneur a une pédagogie très particulière. On est un peu près au milieu du discours. On n'est pas très loin de la révélation de notre Père. Et là, il va dire des choses incroyables. Incroyables! Si on vous vole, laissez aussi le manteau. Si on vous frappe, contrez l'autre jour. Des choses inimaginables qui sont incompréhensibles pour les hommes. Faites du bien ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Il dit des choses absolument incroyables qui sont quasiment inaudibles. Et le Seigneur parle en général de l'ancienne loi. Il dit plusieurs fois, vous avez entendu qu'il a été dit. Il dit chez saint Matthieu, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Vous vous souvenez dans l'ancienne loi, œil pour œil, dent pour dent. On m'a pris un œil, j'en prends un autre. On m'a pris une dent, j'en prends une autre. Mais moi, je vous dis, Moïse vous a dit, pour vous rendre un prochain. Mais moi, le Fils de Dieu, le Verbe, je vous dis, ce n'est plus Moïse qui parle, c'est Dieu. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, de sorte que vous deveniez fils de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil si on est bon et si on est méchant, pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est très très fort, c'est très très puissant. Il parle de l'ancienne loi, il proclame la nouvelle. Et l'autre élément qu'on peut remarquer, avant d'essayer de donner des pistes, on ne peut que donner des pistes de réflexion, des explications, des conseils, c'est difficile. C'est qu'il est très très pédagogue, le Seigneur. Il parle d'abord de choses qui sont, on va dire, de bon sens. Il dit, mais si vous aimez vos amis, qu'est-ce que ça d'extraordinaire? Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, qu'est-ce que ça d'extraordinaire? Vous ne faites rien d'extraordinaire. On ne va pas vous en sauvera malgré. Il dit, même les pêcheurs, ils font pareil, les publicains font pareil. Si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, c'est des remarques de bon sens. Et puis, il élève progressivement le niveau spirituel. Il va dire, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Là, c'est déjà des niveaux très élevés, c'est une pensée divine. Et pourtant, c'est une évidence, c'est une chose simple, c'est une chose que nous pouvons faire. Vous voulez qu'on soit bon avec vous, soyez bon avec les autres. Vous voulez qu'on vous aide, aidez les autres. Vous voulez qu'on vous honore, honorez les autres. C'est déjà une parole extrêmement élevée, extrêmement puissante. Si nous mettions en pratique seulement celle-ci, le monde entier irait mieux. Parce que pas loin de cette théorie, il va progressivement. Il y a d'abord des choses de bon sens, puis il élève petit à petit le niveau. Et après, il va beaucoup plus loin. Il va au niveau divin. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre en pratique cela? D'abord, il faut remarquer que dans l'exemple que cite le Seigneur, quand il parle de son Père céleste, on a déjà une partie de la réponse. Votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, il pleuvoir sur les justes et les injustes. Ça veut dire une chose, c'est que Dieu n'est pas conditionné par nous. Dieu n'est pas conditionné par notre comportement. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Il nous dit, ressemblez à Dieu. Ne soyez pas vaincus par le mal. Vous faites du mal, soyez au-dessus. Ne vous définissez pas par rapport à cela. Ne vous définissez pas extérieurement. Définissez-vous seulement intérieurement. Soyez comme Dieu. Ça, c'est déjà quelque chose de tout à fait extraordinaire qui nous permet de saisir une partie du contenu. Et comment peut-on faire? Ce ne sont que des conseils que je donne, parce que moi-même, je suis bien incapable de mettre en pratique. Je crois qu'il faut d'abord que nous essayions de faire ce qui est possible. C'est souvent comme ça dans la vie spirituelle. Si on veut tout de suite avoir le dernier échelon, on ne va pas y arriver. On veut tout de suite devenir saint, mais pas encore, on va tomber. C'est commencer d'abord par la dernière marche. Par exemple, ne pas rendre le mal pour le mal. C'est pas facile, mais c'est possible. On peut déjà faire l'effort de ne pas rendre mal pour le mal. On a fait ça, je ne vais pas le rendre. Mais c'est déjà une chose qui est possible. C'est un premier degré. Et puis le Seigneur nous donne aussi un autre commandement. Priez, ne maudissez pas. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous font du mal. Mais on peut. C'est difficile. C'est très difficile. Parce qu'on n'a pas envie de penser à des gens méchants quand on prie. C'est difficile. Psychologiquement. Mais dites, priez pour eux. C'est très important de prier pour des gens qui nous font du mal. Ou qui font du mal. Pas nécessairement à nous directement, si vous voulez. Mais déjà de prier. De poser ces personnes devant Dieu. Seigneur, aie pitié d'eux. Ne maudissez pas. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mais c'est possible, c'est pas facile. C'est possible de bénir ceux qui sont méchants. C'est un peu comme si on mettait la lumière divine sur la grâce. Mais vous vous souvenez, dans un autre passage de l'Évangile, j'espère ne pas oublier de vous le dire tout à l'heure, le Seigneur, il dit... pardonner. Et s'ils ne reçoivent pas ce pardon, ils amassent des charbons ardents sur leur tête. Il y aura un jugement. C'est l'enfer qui est sur la tête, les charbons ardents. Donc, vous voyez, il faut déjà que nous essayions nous-mêmes de faire ce qui nous paraît possible. Aussi, autre chose qui est possible. Quand on est face à l'iniquité, à la méchanceté, ça peut être monstrueux, la méchanceté, se souvenir que la personne qui est inique demeure malgré tout l'image de Dieu. Elle est indélébile, l'image de Dieu. Donc, s'en souvenir, ne pas maudire, c'est toujours l'image de Dieu. Se souvenir aussi que nous-mêmes, nous sommes faillibles. Peut-être que le mal qu'il nous a fait, peut-être qu'un jour on l'a fait. Peut-être même on pourrait le faire si Dieu nous protégera. Vous voyez, ça nous permet de relativiser et aussi ouvrir la porte du pardon. Alors, ça ne veut pas dire que l'autre va en y entrer, mais le rendre possible. Je ne pardonnerai jamais. C'est une grande, profonde erreur spirituelle. Toujours bien rapport. Oui. Tous ces éléments-là vont nous permettre, on va dire, d'avancer. Remonter quelques degrés de la chaîne de la sainteté. Bon. Mais le Seigneur, il va plus loin. Aimez vos ennemis, c'est plus. C'est le top. Aimez vos ennemis. Pour aller plus loin, franchir l'étape ultime, je crois qu'il faut la présence de l'Esprit Saint. Je crois que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. C'est une chose impossible sans l'Esprit Saint. Et je veux m'appuyer sur le témoignage de Saint-Sylvain de Latos. Saint-Sylvain disait que le fait d'aimer ses ennemis, c'était le seul critère incontestable de la présence du Saint-Esprit dans une personne. Il dit, il y a d'autres critères. Mais il dit ça, c'est le seul critère incontestable, parce que c'est divin. Parce qu'effectivement, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Mais il peut le faire en nous. C'est cela que je voulais vous transmettre, si vous voulez. Moi, je ne peux pas le faire. Mais l'Esprit Saint peut le faire en moi. Et je me rappelle une histoire que racontait l'évêque Jean à l'Institut Saint-Denis, qui était extraordinaire. Un évêque russe était arrêté par les communistes pendant la Révolution. Mais il se dit, je vais être tué. Beaucoup étaient tués. Ils étaient jugés sommairement, étaient tués. Et il se trouve devant un commissaire politique. Et il entend lui-même, il dit, Seigneur, comment est-ce que je peux aimer cet homme? Le Saint-Esprit l'a rempli. Il était rayonnant d'amour pour cet homme. Et le commissaire politique n'a pas pu supporter le défaut. Il n'a pas pu supporter le soleil. Vous voyez, il est entré en lui-même, il a dit, c'est comment je peux faire? Mais c'est l'Esprit Saint qui l'a fait en lui. C'est une belle histoire. Et puis je veux terminer sur un point, parce que souvent on interprète mal l'Écriture, ou plutôt on n'en prend qu'un petit bout. On ne prend pas tout, il faut prendre toute la Bible, tout l'Évangile. L'amour des ennemis n'est pas une justification de l'iniquité. Ça ne justifie pas le fait qu'on se conduise comme un ennemi. Et cela ne signifie pas qu'ils aient raison de faire du mal. Attention, le Seigneur nous a dit aussi, va et reprends ton frère. C'est pas tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, il y a des gens qui sont iniques. On a le droit de les reprendre. Et aussi, j'insiste sur une chose. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de jugement. Ce n'est pas éternel qu'il y ait des ennemis. S'ils ne reçoivent pas cet amour que nous donnons, au nom de Dieu, ils amassent sur eux le feu de l'enfer, car il y aura un jugement. Le Père céleste fait briller son soleil dans la pluie, mais un temps, au bout du temps, il y aura un jugement. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas la bonté de Dieu ne justifie pas notre iniquité. C'est important de s'en souvenir. Et ça nous aide aussi à ne pas désespérer. Parce que quelquefois, c'est vrai que quand on voit tout cet accroissement d'iniquité, de méchanceté, de haine, et des fois on peut être saisi. Mais ça n'a qu'un temps. À Dieu soit la gloire pour les siècles des siècles. Disons pour le tout.